L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Nelson Mandela, Rouhiala, né le 18 juillet 1918 à Mezo, est mort le 5 décembre 2013 à Johannesburg, est un homme d'État sud-africain. Il est connu pour être un homme politique aux commandes de la lutte contre l'apartheid, ce qui le mena à la présidence de l'Afrique du Sud. De 1994 à 1999, sa vie s'est articulée autour du combat contre la ségrégation raciale. Pour cela, il obtiendra le prix Nobel de la paix en 1993. Notre devise, tous ensemble pour la réussite, tous concernés par l'avenir de nos enfants, de nos ados.
Chers auditeurs, nous sommes le 2 avril 2022 sous un froid polaire. Bienvenue sur Radio Valois-Mussien dans l'émission Pédago Rando, animée par l'association Projet Action 60 en partenariat avec Agir ABCD et Énergie Jeune. Bonjour, fidèle chroniqueur.
Bonjour.
Au téléphone, nous avons Nathan Weber, étudiant des métiers du mouvement national lycéen, ainsi que Lenny Gras, lycéen de terminale, secrétaire général du mouvement national lycéen. Sylvie, peux-tu nous présenter le thème du mois avant que nos deux lycéens se présentent eux-mêmes au téléphone ?
D'accord. Alors, Parcoursup, 4 ans après. Toujours critiqué à ce jour, apportant beaucoup de stress et de démotivation auprès des jeunes qui se sentent souvent mal conseillés. Pourtant, des améliorations ont été apportées, anonymisation des dossiers des candidats, élargissement de l'offre de formation, renforcement de l'information auprès des candidats, le calendrier de la phase principale resserré pour moins d'attente. Cela ne satisfait pas ni les différentes associations, ni les jeunes eux-mêmes. Le compte n'y est pas. Faut-il harmoniser les critères de sélection et d'évaluation ? Donc, Gérard, à toi.
Oui, Nathan, peux-tu te présenter ?
Oui, bonjour à vous. Merci de m'avoir invité pour cette émission. Je m'appelle du coup Nathan Weber et je suis secrétaire national au mouvement national lycéen, le premier syndicat lycéen. Et actuellement, je suis étudiant des métiers comme ça a été présenté. Donc, apprenti en cuisine sur un CAP.
Ok. Et Lenny ?
Bonjour. Du coup, moi, je suis Lenny Gras, donc secrétaire général pour le MNL, Mouvement National Lycéen, et je suis en terminale dans le département de l'Ain, en session générale.
D'accord. Donc, on va voir un petit peu comment fonctionne Parcoursup. Alors, le calendrier Parcoursup se fait en 3 étapes. La première pour s'informer sur les formations proposées. La deuxième pour formuler les vœux, 10 au total sans ordre de préférence, et finaliser le dossier. La troisième pour recevoir les propositions d'admission et faire un choix. Tout ceci sur une période allant de début novembre à mi-juillet. Ce calendrier est-il bien expliqué ? Les aides fournies par Internet ou par les professeurs sont-elles satisfaisantes ? Quelles sont les alternatives pour trouver toutes ces informations ? Comment avez-vous fait pour remplir ce dossier Parcoursup ? L'un ou l'autre, Nathan, ou qui veut prendre la parole, ou Lenny ?
Je peux commencer si vous voulez.
Vas-y, Lenny.
Du coup, pour le calendrier Parcoursup, en fait, c'est surtout les établissements qui s'en occupent. On peut se renseigner sur Internet, mais en réalité, le site de Parcoursup est un peu austère, on va dire. Et donc, les établissements, en fait, ça se fait souvent au cas par cas, selon nos enseignants, plus qu'une réelle politique au niveau national. Moi, par exemple, dans mon lycée, dès la première, on a eu quelques heures de renseignement, un peu. Mais en fait, c'était assez inégal selon les classes. On a des élèves qui ont pu directement avoir des heures d'explication par leurs enseignants, et puis d'autres qui n'ont pas pu, surtout qu'on était en période de Covid avec, pour mon cas, une semaine sur deux en présentiel et l'autre en distanciel. Du coup, on avait un réel problème niveau information. Et en réalité, là encore aujourd'hui, dans mon établissement, on avait jusqu'à du coup le 29 mars pour sélectionner ses vœux, et là on a jusqu'au 7 avril pour les confirmer. Et en réalité, il y a encore pas mal d'élèves qui n'ont pas pu mettre tous les choix qu'ils voulaient. Donc voilà, on a surtout ce problème-là d'information et en réalité, beaucoup d'élèves qui n'ont pas eu le temps ni les informations pour s'inscrire.
D'accord. Toi, Nathan, tu penses la même chose ou tu as...
Ouais, je compléterai ce qu'a dit Lenny, effectivement, en appuyant sur le fait que...
Est-ce que tu peux parler plus fort, Nathan ?
Ouais, pardon. j'appuierai sur ce qu'a dit Lenny effectivement en disant que au niveau de l'orientation et de l'information sur les différentes filières et sur l'enseignement post-bac, on voit aujourd'hui un vrai manque au niveau de l'accompagnement plus personnalisé avec ce qu'on appelle aujourd'hui les PsyEN, les psychologues de l'éducation nationale. On a vraiment un manque de personnel dans l'établissement et également un manque de formation au niveau des professeurs pour accompagner plus précisément et plus individuellement les élèves. Ça aujourd'hui c'est quelque chose qu'on regrette mais qui en fait rentre dans le cadre des réformes de l'éducation nationale depuis le début du gouvernement de Blanquer à Macron. Et donc nous, au mouvement Action Latin, ce qu'on revendique, c'est d'avoir davantage de psychologues de l'éducation nationale dans l'établissement et qu'en fait, tout simplement, on constate que un PsyEN qui est là 2 à 3 jours par semaine pour des milliers d'élèves, 1000 à 1500 élèves parfois, c'est juste pas gérable. On le voit dans un grand nombre de lycées en France. Et voilà, après je ne vais pas répéter ce qu'a dit Lenny, mais effectivement il a un témoignage très, 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 très véridique.
Mais okay. Comment Parcoursup vous est présenté par les profs?
Je peux répondre.
Oui, vas-y.
Comment ça nous est présenté comme la plateforme qui du coup aujourd'hui gère l'application post-bac. Moi, la manière dont ça m'a été présenté, du coup, c'était voilà, il fallait vraiment regarder un peu toutes les formations qui pouvaient correspondre à ce qui peut nous intéresser au niveau de l'enseignement. On nous a fait faire quelques tests de sur internet, on aime telle ou telle activité, somme de loisirs, tout ça, et du coup, ça permet d'affiner un peu ce qu'on cherche pour la suite. On y retrouve un peu toutes les différentes formations, donc que ce soit de la prépa, les classes préparatoires, jusqu'aux licences, en passant par les BTS et tous les autres types de formations. Et donc après, on nous présente voilà comment trouver les différentes formations et comment choisir tel fac à tel endroit avec telle spécialité, option, parce qu'il y a aussi un certain nombre de facs qui sont certaines avec de la sélection, d'autres moins. Et c'est en fait c'est assez compliqué de bien s'y retrouver, de bien de savoir comment on avance vis-à-vis des facs, de savoir comment motiver nos choix et de savoir. En fait, on n'a que 10 choix hein, finalement qu'on peut formuler, ce qui est finalement pas tant que ça en fait.
Oui, parce qu'avant c'était 20.
Voilà, et puis on a en fait un projet qui n'est pas forcément toujours très clair dans la tête des élèves. Voilà, je ne sais pas si Lenny voudrait compléter.
Et pourquoi justement Lenny, pourquoi tu disais que c'était un système austère?
Dans le sens où en fait on a du coup un algorithme qui fait la sélection entre les élèves et en réalité on sait toujours pas exactement comment il fonctionne. Quand on nous présente Parcoursup, on nous dit oui, il faut remplir certaines choses qui vont faire que vous serez favorisé ou non, mais on n'a pas d'éléments concrets avec une liste de ce qui est défini ou pas. Par exemple, on m'avait dit oui, il y a certaines options dans certains lycées qui sont favorisées. Voilà, par exemple, si vous prenez une option droit, une option anglais euro, vous serez favorisé. Mais en réalité, on n'a nulle part où c'est confirmé concrètement. Donc austère dans le sens où on a un manque d'informations là-dessus et on ne sait pas. Ce qui permet d'être sélectionné ou non, même si la sélection pose déjà problème en soi.
Oui, c'est vrai que les algorithmes non connus sont assez critiqués. En 2020, la Cour des comptes avait donné des recommandations pour plus de transparence au niveau des commissions d'examen des vœux aussi, mais aussi pour l'accompagnement des élèves dans leur choix d'orientation très inégal, qui avait été dénoncé... au mois de juillet de 2020. En 2021, le comité éthique et scientifique de Parcoursup fait 17 recommandations effectivement pour améliorer le fonctionnement de Parcoursup. Et effectivement, il demande la hiérarchisation des vœux et puis beaucoup plus de transparence sur la publication des algorithmes. Bon, il y a d'autres petites choses qui sont intervenues depuis. Effectivement, ces dossiers Parcoursup, comment avez-vous fait, puisque vous n'avez pas beaucoup de formation, pour aller les chercher ailleurs, puisque les professeurs sont peut-être pas formés pour cela. A priori, sur Internet ou même sur le site Parcoursup, beaucoup d'élèves sont un peu paumés. Comment vous avez fait, vous, en fin de compte, pour les remplir, ces fameux dossiers Parcoursup ?
En réalité, c'est surtout de l'entraide entre élèves. On a demandé, quand on connaît des gens qui sont en enseignement supérieur, qui ont déjà passé Parcoursup, on leur demande un petit peu ce qu'ils ont mis. On demande aussi aux établissements du supérieur, parce que vous saviez, il y a des journées portes ouvertes, etc. Mais bon, tout le monde peut pas y aller. Donc en réalité, c'est un peu chacun pour soi, avec des informations qu'on sélectionne un peu où on veut. Et on a, vous savez, à remplir des lettres de motivation, des informations personnelles. Et en réalité, ce qu'on fait, c'est essayer de se valoriser sur des choses. Enfin voilà, quand on nous demande une expérience professionnelle à 18 ans, il y en a beaucoup qui en réalité n'ont rien mis. Et on est obligé de broder pour espérer obtenir quelque chose, sachant que on a aussi des camarades des années passées qui nous ont expliqué qu'en fait il y a beaucoup de lettres et de projets qui ne sont juste pas lus, et que la sélection est déjà faite avant. Donc voilà.
Oui, parce que Parcoursup, en fin de compte, dispatche un peu les élèves dans les formations. Ils dispatchent, mais après, ça passe par des commissions dans des lycées, dans des facs ou dans des universités, par des membres administratifs des facs ou universités. C'est comme ça que ça se passe, Léni ou Nathan? Allô, allô?
Oui, à peu près, oui, effectivement, c'est ça aussi le problème aussi, c'est que parfois on a un manque de, il y a une certaine spécificité à chaque établissement ou centre de formation, et effectivement sur comment sont étudiés les dossiers, tout ça. Par exemple, je sais pour y avoir postulé que pour Sciences Po, il y a déjà une première présélection des dossiers. Et qu'en fonction des notes, il y a énormément de dossiers qui ne vont même pas être lus, mais qui vont juste être mis sur le côté et voilà, qui ne seront pas pris en compte.
Mais c'est pareil, pour aller rechercher les critères de sélection, effectivement, c'est à vous aussi peut-être de rechercher directement sur les sites des universités, de Sciences Po, etc., voir un petit peu ce qu'ils recherchent aussi sur les jeunes.
Oui, tout à fait. Et puis très souvent, ça va du coup se centrer un peu sur, en tout cas avec la nouvelle réforme, sur... le choix de telle ou telle spécialité et telle ou telle appétence avec des langues, des techniques, des outils, tout ça sur les du coup, différentes thématiques de formation. Mais après, effectivement, il n'y a quand même pas toutes les... En fait, les universités puis les différentes formations qui indiquent leurs critères de sélection, elles le font de manière assez disparate et surtout... de manière très différente, c'est-à-dire que d'une université à l'autre, on va avoir pas les mêmes quantités d'informations sur les différents critères de sélection.
D'accord, oui, donc c'est compliqué de s'y retrouver en fin de compte.
Ouais, tout à fait.
Et moi, j'aimerais savoir sur les formations proposées, sont-elles en nombre acceptable ? Le choix est-il correct ? Avez-vous l'impression de rentrer dans un entonnoir et ça manque au niveau de vos aspirations ? Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus ? Est-ce que le choix est acceptable ? Je sais que par rapport à 2020, en fin de compte, il y a eu encore d'autres formations qui ont été rajoutées.
En fait, les formations qui ont été rajoutées, c'est en partie des formations qui sont issues du privé, qu'on peut aussi retrouver sur Parcoursup. Et pour ce qui est du nombre, en fait, c'est selon le champ d'études, c'est vraiment inégal. En fait, pour vous donner une idée, pour ce qui est des sciences sociales, on a ce qu'on appelle, enfin, il y a aussi dans d'autres formes d'études, on a ce qu'on appelle des licences et des formations sous tension, où en réalité, on est censé pouvoir être accepté, mais on est dans une liste d'attente infinie et dans laquelle on se retrouve à attendre plusieurs mois en ayant pour espoir d'obtenir une place au bout d'un moment. Mais c'est des formations sur lesquelles il y a déjà beaucoup trop de gens qui demandent et en réalité il n'y a pas assez de place. Et du coup ça pose aussi la question de il faut investir dans l'éducation et surtout l'enseignement supérieur. On a des formations professionnelles où le choix peut être un peu plus complet, mais il y a beaucoup de gens qui ont une formation spécifique, surtout s'ils veulent se professionnaliser, ou en réalité, s'ils n'obtiennent pas cette formation, ils se retrouvent sur le carreau. Par exemple, ce que je peux vous donner, c'était que en 2021, c'est un chiffre des parents d'élèves de la FCPE, 90 000 jeunes sont sortis de Parcoursup et n'ont eu aucune affectation. Donc ça fait quand même un candidat sur 10. Donc il y a un réel problème d'affectation et de manque de moyens dans l'enseignement supérieur.
Alors dans les 90 000, effectivement, dans ce cas-là, je sais qu'il y a une commission qui aide les jeunes à se réorienter. On ne sait pas exactement si c'est le chiffre de 90 000 qui n'ont rien trouvé en affectation. Et c'est pareil au niveau de Parcoursup, on ne comptabilise pas parce qu'en cours d'année, je veux dire, il y a certains jeunes qui au départ vont sur Parcoursup et puis décident plutôt que de suivre le public, vont aller dans un établissement privé. Et ces jeunes-là, on n'a pas effectivement le nombre d'élèves qui quittent Parcoursup pour aller en privé. Est-ce que c'est comptabilisé ?
En plus, ce qu'a fait Parcoursup et la réforme Blanquer, c'est favoriser les formations privées et surtout, il y avait un article du Monde qui en parlait, l'explosion du nombre de coaching et de formations privées pour pouvoir obtenir une formation qu'on veut et du coup, plein d'entreprises privées qui se lancent dans des sortes de formations qui sont pas vraiment reconnues et sur lesquelles les élèves parfois s'endettent pour les payer et pour obtenir ces formations qui ne sont pas reconnues.
Alors c'est vrai qu'on avait eu Mohamed Assamti qui est professeur au lycée à Creil, c'était Nogent-sur-Oise ou Creil? Creil. Et il nous avait dit, c'était concernant les examens maintenus. D'ailleurs, on avait eu deux jeunes déjà de votre mouvement qui étaient venus. Et Baptiste Guéras, Baptiste. Je crois. Oui, Baptiste Guéras. Et puis Antonin Nouvian qui était intervenu lors de cette émission. Et donc, Mohamed Assamti disait qu'effectivement, beaucoup d'élèves qui se retrouvaient sans affectation étaient repris par le Greta pour faire une réorientation ou donner des cours scolaires supplémentaires. Voilà, donc c'était pour dire tout ceci. Alors, par contre, moi, je voudrais savoir, lors de ces trois périodes Parcoursup, quelle a été pour vous votre plus grande faiblesse et laquelle est la plus insoutenable pour vous? Je pense que c'est la troisième phase, lorsqu'il faut attendre un petit peu les résultats. Léni ou Nathan? Qui veut parler? Nathan, vas-y.
Il y a déjà une période qui est assez compliquée, c'est la période de l'attente pendant laquelle pendant laquelle en fait on passe plusieurs semaines sans savoir dans quelle université, dans quelle formation on va pouvoir être accepté ou non. Et puis après, pour moi, vraiment le plus stressant, ça a été aussi toute la période où, en fait, on voit notre position, notre classement dans les différentes formations et notre place dans les listes d'attente qui change, qui varie d'un jour à l'autre avec des personnes qui laissent leur place. Et du coup, ça fait plus de place. Enfin, ça dure comme ça pendant plusieurs semaines. Et puis voilà, tous les jours, on regarde à 9h... au moment de l'actualisation, est-ce que on est remonté dans le classement, est-ce qu'on va pouvoir avoir d'autres formations, on essaye de faire des calculs pour savoir en semaine dernière jusqu'à où ça a été pris, est-ce qu'on va être pris. Et c'est pas une période évidente, parce qu'en plus c'est à peu près au moment du bac, où justement, ou parfois ça tombe à peu près juste après quoi. Non, c'est clairement pas la période la plus reposante, mais puis après surtout on voit qu'il y a un certain nombre de lycéens qui c'est de partir en vacances et qui se retrouvent à partir sans avoir d'affectation et que finalement il faut pouvoir chercher d'autres formations. Voilà, c'est pas évident, mais je laisserai Lénie compléter sur plutôt les premières étapes de Parcoursup.
Vas-y Lénie, on t'écoute.
Du coup, moi, j'ai pas encore eu à subir la période d'attente. Enfin, là, ça sera à partir du 7 avril, du coup.
Mm-hmm, oui.
Mais pour les premières périodes d'inscription sur les vœux qu'on souhaite, sur le renseignement dans les dossiers, etc., globalement, en fait, moi, j'ai eu plutôt la chance de savoir à peu près dans quel champ, quelle partie des études que je veux mener. Mais en fait, j'ai beaucoup de camarades qui ont rempli des vœux sur lesquels il y en a vraiment... Enfin, il y en a même pas un souvent qui leur plaît complètement. Des camarades qui ont pris des formations scientifiques et qui se retrouvent avec très peu de choix sur ce qu'ils voulaient faire finalement. Parce qu'on vous demande avec la réforme Blanquer de choisir dès la seconde des spécialités. Et en réalité, quand on arrive en terminale, on n'a pas forcément les mêmes aspirations. Et du coup, sur cette période-là, en fait, on a beaucoup d'élèves qui sont en stress. Et puis, c'est difficile d'avoir, comment dire. Un horizon sur ce qu'on veut faire l'année prochaine avec le Covid, avec les périodes de crise. C'est vraiment compliqué de s'imaginer un futur à peu près désirable quand on est dans ces périodes-là. Donc voilà, sur ces périodes, c'est vraiment le stress, l'anxiété pour beaucoup d'élèves. Donc voilà.
Donc pour passer les épreuves du bac, c'est un peu compliqué. Alors il faut rappeler aussi pour Parcoursup, les notes prises en compte lors de l'année de terminale, c'est le bulletin premier et second trimestre. Parce que le troisième trimestre, en plus, faut vraiment bosser parce que ces notes vont servir à calculer la moyenne pour le bac. Et donc, il y a aussi les notes de première qui comptent effectivement hein, pour le bac. Voilà, je ne me suis pas trompée, c'est ça, pour Parcoursup et le bac, c'est comme ça que ça
oui,
se passe.
C'est comme ça que ça fonctionne, et d'ailleurs, c'est ce qu'on critique, c'est encore une fois la nouvelle réforme de Blanquer. On avait de base normalement des E3C, des épreuves de contrôle continu, qui ont été supprimées cette année, et du coup, le contrôle continu représente 40% aujourd'hui du bac. Donc en fait, 40% de votre note finale sont définies par les notes que vous obtiendrez de vos professeurs dans votre établissement, et du coup, ça renforce une inégalité selon l'établissement où vous êtes, selon la ville. Donc c'est pour ça aussi que l'accès au supérieur est compliqué quand vous êtes dans un établissement avec des difficultés, vous avez clairement pas les mêmes chances d'être pris dans les sélections, enfin dans les formations que vous voulez.
Voilà. Alors, ce qui compte aussi pour Parcoursup, c'est le projet de formation motivée, les pièces complémentaires demandées par certaines formations, la rubrique activités et centres d'intérêt si elle est renseignée. D'ailleurs, ça, on y reviendra sur les activités et centres d'intérêt dans notre deuxième partie égalité ou non égalité des chances et l'affiche à venir renseignée par le lycée. Donc voilà un petit peu. Donc on voit bien qu'il y a vraiment un très gros stress chez les élèves le troisième trimestre lorsque vous passez les épreuves du bac. C'est ça.
Oui.
Il y a quelque chose aussi. Quand tout à l'heure, on parlait de Parcoursup et puis de son côté un petit peu austère. Alors, moi, je suis allée un petit peu regarder les critiques. Alors, il y a des formations sélectives, des formations non sélectives. C'est un peu compliqué parce que, du coup, dans les 10 choix non hiérarchisés, on peut mettre des sous-formations. Est-ce que quelqu'un peut expliquer ça exactement? Alors, s'il y a des sous-choix, ça veut dire qu'effectivement, on a peut-être plus de choix d'être accepté dans des établissements supplémentaires. Lénie, Nathan, lequel des deux se lance? Lénie?
Oui, en fait, on a du coup la possibilité de faire 10 vœux sur Parcoursup avec 20 sous-vœux. Donc en gros, les sous-vœux, c'est entre guillemets, quand vous choisissez une formation, vous pouvez choisir plus d'établissements qui sont de cette même formation pour pouvoir choisir d'autres vœux. Mais en réalité, il y a beaucoup d'élèves qui savent même pas comment ça fonctionne directement parce que les sous-vœux sont pas sur toutes les formations. C'est plus pour les formations professionnelles, etc.
Je te coupe deux secondes. Excuse-moi, Lénie. Donc pour les licences, il n'y a pas de sous-vœux.
En tout cas, moi, j'ai fait mes choix il y a quelques semaines et je n'ai pas réussi à accéder, enfin, à mettre des sous-vœux en essayant de me renseigner un petit peu.
D'accord. T'avais pris quelle branche, sinon?
De quoi?
T'avais choisi quoi comme vœu?
Des champs de sciences sociales, sciences politiques, sociologie, économie, dans ce style-là.
Ah, d'accord. OK. Donc, c'est compliqué, en fin de compte, ces sous-vœux, en fin de compte.
Bah, en réalité, oui. Si vous voyez, nous, on est représentants d'organisations lycéennes et on ne sait pas complètement comment ça fonctionne, alors qu'on a quand même beaucoup de camarades qui peuvent nous aider, etc. Donc, imaginez des élèves qui se retrouvent seuls ou avec un enseignant qui les aide comme il peut, etc. En réalité, c'est extrêmement compliqué pour les élèves.
Mais au départ, dans cette réforme Parcoursup, il ne devait pas y avoir un deuxième professeur principal, justement, qui aurait dû être formé pour expliquer justement Parcoursup aux élèves.
Dans l'idée, ça devait être le cas, mais en réalité, on a ce qu'on appelle des professeurs référents qui ne sont pas plus formés que ça sur la question. Et avec la réforme du lycée de Blanquer, on a jusqu'à 6 à 8 classes différentes dans la semaine selon nos matières. Et en réalité, on se retrouve en classe entière à peu près 4 heures par semaine. Donc, en fait, c'est très compliqué pour le professeur de pouvoir suivre vraiment des élèves, surtout que la plupart du temps, ce professeur référent, il a plusieurs classes à gérer. Il a une trentaine d'élèves où il doit s'occuper de leur orientation, mais en réalité, ces élèves viennent de classes différentes. Donc, c'est des profs qui n'ont pas pu être formés, et en plus de ne pas pu être formés, ils ne sont pas assez avec beaucoup d'élèves à gérer.
D'accord. Et est-ce que dans ce cas-là... Lorsqu'il y a un élève qui ne sait pas vraiment au niveau de la formation quoi faire, est-ce qu'il peut se rendre au CIO, au Centre d'information et d'orientation ? Est-ce que les professeurs vous envoient dans les CIO ou pas du tout ?
Moi, je peux peut-être répondre.
Vas-y, Nathan.
J'ai eu affaire à ça pour le coup. Et d'ailleurs, comme Léni, en fait, même après, elle ne veut pas se faire voir, je ne suis toujours pas capable de vous expliquer vraiment sur les questions des sous-vœux, tout ça, et parce que même moi, sur le moment, je ne comprenais pas, et bah, je ne sais pas. Mais effectivement, quand on a du mal à comprendre tout ça, j'ai souvent parlé de CIO, en fait, on a, comme je l'évoquais au début de l'émission, un trop manque d'accompagnement et de personnel pour nous accompagner, et surtout de personnel qui soit suffisamment formé, c'est-à-dire que moi, on m'a rediriger vers différentes instances, entre guillemets, parce qu'il y a au niveau de l'établissement où on parle effectivement du CIO, après on nous parle au niveau du rectorat, et puis du coup ça a été plutôt au niveau de l'établissement où j'ai pu finalement avoir un rendez-vous avec du coup la PCUN qui s'occupe de l'orientation, et en fait pour avoir un rendez-vous il fallait prendre 3 semaines à l'avance parce qu'il était là présent 3 ou 4 jours dans la semaine au lycée.
Oui, et puis beaucoup de demandes des élèves, oui.
Voilà, et du coup, c'est compliqué d'avoir... un rendez-vous, ça ne suffit pas. Il a fallu avoir plusieurs rendez-vous pour affiner un peu le projet et affiner comment les différents choix d'orientation et les choix de formation ils peuvent se concorder avec le projet de formation.
D'accord. On va passer un petit peu à l'égalité ou non-égalité des chances avec ce Parcoursup. Hein. Alors, Parcoursup se dit être une plateforme au service de l'égalité des chances. Alors, il est vrai, avant Parcoursup, c'était APB, si je ne me trompe pas. Et il y avait le fameux tirage au sort. Il a disparu. Hein, donc, c'était vraiment un élément d'inégalité. Et donc, ça a permis quand même une amélioration. Par contre, on tient compte des notes obtenues au bac hein, selon le lycée d'origine, l'académie d'origine, la sélection est donc toujours de mise. Qu'en pensez-vous ?
Alors, effectivement, APB, c'était pas le fonctionnement parfait avec le tirage au sort, mais en réalité, la réforme de Blanquer supprime le tirage au sort et se base sur une sélection et une compétition entre élèves basée souvent sur leur classe sociale d'une certaine manière. Mm-hmm. Parce que si vous avez du contrôle continu à 40%, si vous venez du lycée Henri IV ou si vous venez d'un lycée de banlieue de Villeurbanne, vous avez clairement pas les mêmes chances d'être pris dans les mêmes formations. Donc on a remplacé un système de sélection par un autre qui est en réalité plus vicieux étant donné qu'il se base sur des critères de classe, si vous voulez.
Oui, alors c'est pareil, moi, quelque chose qui m'a interpellé, je le disais tout à l'heure, c'est la fameuse, dans le Parcoursup, dans le dossier, il faut la rubrique activité et centre d'intérêt. Alors là, effectivement, ça va dépendre aussi de la classe sociale des parents pour payer effectivement peut-être que les enfants fassent du théâtre ou du sport, etc. C'est peut-être encore une inégalité des chances pour vous aussi ?
Oui, tout à fait. Et
le milieu social, là, va compter énormément.
Voilà, il y a deux points là-dessus, c'est qu'il y a effectivement tout le capital, culturel, puis le capital financier auquel les différents élèves peuvent avoir accès ou pas en fonction de leurs parents, de leur milieu d'origine, tout ça. Et il y a aussi en fait la manière dont ce capital il se retranscrit dans comment les élèves ils peuvent après valoriser ou non leurs expériences et justement tout le passif qu'ils ont derrière eux et tout ce qu'ils peuvent éventuellement valoriser. Parce que parfois, certains élèves avec certainement moins de capital culturel, financier ou quoi, qui ont eu cependant plus d'expérience, par exemple plus d'expérience professionnelle, ils ne sauront pas forcément avec les bons mots, avec les bonnes tournures de phrases, bien le présenter, et ça joue énormément dans les dossiers et dans cette partie-là, effectivement, activité et son intérêt.
Alors, c'est pareil, on va écouter un intermède musical et on reviendra sur ce sujet-là après. Hein.
Professeur.
Notre thème du jour, Parcoursup, 4 ans après. Au téléphone, nous recevons Nathan Weber, étudiant des métiers du Mouvement national lycéen, et Lénie Gras, lycéen de terminale, secrétaire général du Mouvement national lycéen. Donc nous allons reprendre avec Sylvie sur les égalités ou non égalité des chances.
Voilà, donc on écoutait quand même tonton David, professeur. Voilà. Donc effectivement, bon, on a vu la rubrique activité et centre d'intérêt qui doit être remplie pour Parcoursup. Effectivement, on a vu que c'était selon la classe sociale des parents. Et donc là, c'était peut-être compliqué pour certains élèves. Les algorithmes mentionnant le critère boursier ou non boursier va permettre de faciliter l'entrée aux universités ou facs pour certains jeunes n'ayant pas les moyens d'y accéder. Ne serait-il pas plus logique d'annuler ces droits d'entrée, la gratuité pour tous ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, effectivement, il y a des places pour les boursiers avec l'idée de discrimination positive. Mais en réalité, nous, ce qu'on pense, c'est que le bac, c'est le premier grade universitaire et qu'à partir de son obtention, l'accès aux études supérieures, peu importe lesquelles, devrait être possible pour chaque élève qui a obtenu le baccalauréat. En réalité, enfin, on le rappelle, l'enseignement supérieur, c'est un service public. Donc, logiquement, à partir du moment où vous êtes bachelier, on peut pas vous refuser un accès en université, en fac. Donc, nous, on estime effectivement les places en boursier pour l'instant, elles sont bien parce qu'elles permettent aux classes précaires de pouvoir obtenir certaines licences qui sont beaucoup trop sélectives et qui normalement sont accessibles qu'à une minorité. Mais là, le problème étant que il faut réformer complètement le système d'enseignement supérieur. Que Frédéric Vidal et Jean-Michel Blanquer ont détruit et ont sous-investi dedans.
D'accord. Moi, je vais parler du grand oral. Alors, je me rappelle quand il y avait eu, au mois de juin 2021, sur les examens maintenus, effectivement, il y avait eu beaucoup de critiques sur ce fameux grand oral. Bon, c'était la première fois. Et justement, ce grand oral est-il un aperçu de sélection, là aussi, selon le langage employé, l'éloquence, l'attitude corporelle, etc., hein, l'art de communiquer, hein, de toute façon. Et ça, c'est peut-être aussi une façon de discriminer certains jeunes. Qu'est-ce que vous en pensez de ce grand oral ?
Bah oui, totalement, en fait. L'oral et surtout l'éloquence, en réalité, c'est effectivement des exercices dans lesquels sont beaucoup plus à l'aise les classes dominantes. En réalité, c'est surtout... Enfin voilà, si vous avez des élèves qui ont prévu de faire l'ENA, qui ont prévu d'aller à Sciences Po, évidemment que le grand oral, ça va être quelque chose sur lequel ils vont avoir aucun problème, sachant que, si je dis pas de bêtises, c'est coefficient 8. Donc ça reste quand même une note importante pour le bac. Et en réalité, effectivement, ça ne fait que favoriser les classes dominantes. Au détriment des classes populaires.
D'accord. Mais le grand oral, il est basé sur quoi ?
Donc c'est une épreuve dans laquelle on doit parler au total 20 minutes, 10 minutes, enfin, 5 minutes sur le sujet qu'on prépare, 5 minutes d'échange avec l'enseignant, 5 minutes sur des questions plus particulières et 5 minutes sur le projet professionnel. Donc là encore, c'est quelque chose de discriminant parce qu'en effet, c'est pas la même chose de dire que vous avez prévu de faire des grandes études et que vous avez un projet d'avenir déjà tout tracé que de dire que vous ne savez absolument pas ce que vous voulez faire. Et donc du coup, le sujet qu'on doit préparer, il doit être lié à nos spécialités, donc encore quelque chose de la réforme du lycée. Vous devez faire un sujet qui lie vos deux spécialités. Et il y a des spécialités pour lesquelles c'est beaucoup plus simple. Par exemple, moi je fais de l'économie et de la géopolitique. C'est des sujets qui vont bien ensemble. Mais on a des élèves qui, en seconde, ont pris des spécialités parce qu'ils pensaient préférer une à l'autre, mais ne savaient pas dans quoi ils s'aventuraient, sachant qu'on ne peut pas changer de spécialité. Voilà, vous avez des élèves qui se retrouvent avec de la SVT une science sociale comme la philosophie, etc. C'est des sujets où c'est beaucoup plus compliqué de pouvoir parler, de pouvoir parler promptement, etc. Donc voilà.
Mais il y a quand même une préparation.
Oui, bien sûr. L'exercice en tant que tel de l'oral au bac, c'est quand même quelque chose qui est assez discriminant socialement.
Donc, en fin de compte, si je comprends bien, les élèves de 3e et de 2e doivent faire attention dans le choix de leur spécialité. Et c'est peut-être là qu'il n'y a pas assez d'informations.
C'est ça. Et puis surtout que dès la seconde, on vous fait choisir des spécialités sur lesquelles vous ne pourrez pas changer d'avis et sur lesquelles vous n'êtes pas spécialement informé vu que vous n'en avez pas fait avant. Par exemple, d'ailleurs, c'est ce qu'avait montré Libération. On a, depuis la réforme des lycées, un pourcentage de filles qui prennent des matières scientifiques qui est passé de 50 à 40%. Je crois qu'on a perdu énormément de filles dans les filières scientifiques, ce qui fait qu'accentuer les inégalités de genre. Donc, en réalité, les spécialités dès la seconde, ça pose des problèmes. Par exemple, moi, je fais de l'économie. En seconde, vous avez 2 heures d'économie. Vous savez pas vraiment ce que c'est. Donc, c'est compliqué de choisir ça quand on n'a jamais fait, même si ça nous intéresse un peu.
Mmh. Nathan, je crois que tu voulais intervenir.
Oui, je suis de retour, excusez-moi. Je vais surtout appuyer en fait le propos de Lenny, parce qu'effectivement, moi, j'avais des spécialités, j'avais géopolitique et physique-chimie. Et donc, voilà, qui au premier abord paraissent pas très faciles à mettre à concorder. Ouais, en fait, je pense effectivement on a un grand manque d'informations et de d'échanges sur le choix des spécialités. Parce que typiquement, moi, j'ai dû prendre mathématiques en première, une spécialité que j'ai abandonnée par la suite. Et en fait, une spécialité que j'avais pas envie de prendre, mais qu'on m'a dit que j'étais obligé de prendre parce que je prenais physique-chimie. Ce qui s'avérait pas tout à fait faux, mais... pas non plus en fait
si intéressante pour ton orientation.
Voilà, d'une part effectivement, et puis même dans ce qui m'intéressait, finalement c'était pas une matière qui m'a beaucoup intéressé.
Vous pensez pas que tout ce qui serait à refaire à partir du collège, à partir de la cinquième?
Comment? À partir de
les orientations.
Oui, commencer dès la cinquième à parler métier, orientation dès le collège.
Oui, tout à fait. Et puis j'appuierai même, je pense, ce propos sur le fait qu'il faut qu'on puisse voir concrètement ce que c'est. Et puis je pense que les stages, c'est quelque chose qui est très intéressant et qui pourrait être développé. Alors pour ça, il faudrait que les stages soient un peu plus, un peu mieux préparés pour que ça se fasse dans des bonnes conditions. Mais sur le principe, il faudrait que l'orientation, elle puisse commencer le plus tôt possible en soi. Déjà parce qu'il y a des élèves... dès après la troisième s'orientent dans des établissements tout à fait différents et sur des formations tout à fait différentes, certains professionnels, d'autres de plus général ou technologiques. Et là, effectivement, il faut que la formation et l'orientation elle puissent se faire au plus tôt. Mais,
avec des bonnes informations.
Voilà, mais pour ça, il faut des moyens. Et il faut des moyens dans l'éducation nationale pour permettre la création des postes qui vont faire de l'orientation, pour permettre d'avoir en fait la formation aussi des enseignants et des personnels pour accompagner les élèves sur la formation, parce qu'elle passe principalement par l'orientation, c'est par les différents personnels et puis même les, comme l'a évoqué Lenny, les camarades aussi qui sont un peu plus vieux et qui ont déjà vécu tout ça et qui peuvent nous expliquer.
D'accord. Alors, justement, on va continuer sur les améliorations à apporter. Hein. Chaque année, le gouvernement apporte des améliorations, mais bon, on se rend compte que les critiques sont toujours là. On aimerait faire un petit point avec vous pour essayer de comprendre ensemble les failles de ce système de sélection. Bon, on a vu surtout le problème des algorithmes qui n'est pas connu des jeunes. Et de votre point de vue, Parcoursup, pour vous, est-ce un outil qui reste encore humain? Est-ce qu'il fonctionne vraiment pour l'intérêt des futurs étudiants?
Non, pas vraiment. Non, en fait, comme on l'a évoqué depuis l'émission, le gros problème effectivement avec Parcoursup, c'est que il prend assez peu en compte la réalité du terrain, la réalité des élèves et la réalité de l'orientation. Et en fait, je pense que nous on a une réponse qui est globalement assez simple hein, à ce système qui a été créé, enfin qui a été imposé en fait pour l'admission post-bac, c'est que si ce système doit exister aujourd'hui, c'est parce que il y a un vrai choix politique de réduire l'accès à l'enseignement supérieur. Un choix politique qui n'a pas toujours été le cas. Je sais que dans les années 70, on était plutôt dans une volonté de démocratiser l'enseignement supérieur.
Et oui, mais il y avait beaucoup moins de jeunes qui suivaient des études. Hein. Je pense qu'il y avait ça aussi, peut-être.
certes, mais...
Maintenant, bon, ils sont peut-être obligés de faire une sélection parce qu'il y a beaucoup trop d'élèves qui veulent suivre en général.
On s'aperçoit quand même que la première année, il y a beaucoup de déchets au niveau de...
justement, oui, il y a beaucoup de jeunes qui disparaissent, qui stoppent, effectivement. Mais c'est vrai, ce Parcoursup, on a vraiment que c'est vraiment une sélection pour les meilleurs élèves. Moi, je vois les meilleurs élèves, hein, ceux qui ont 15 de moyenne tout au long de l'année du bac. Eux, il n'y a pas de difficulté pour eux d'être pris dans leur orientation choisie. Donc, on voit vraiment qu'il y a cette sélection-là de fait.
Oui,
mais effectivement, c'est vrai ce que dit effectivement Jackie, pourquoi faire partir des jeunes dans les études supérieures si dès la première année, ils arrêtent. Donc bon, ce n'est pas un échec en soi, attention, hein, mais effectivement, peut-être qu'il aurait mieux valu les orienter autrement ou, comme disait effectivement Gérard, faire l'orientation beaucoup plus tôt. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que je pense que, pour le coup, il faut pouvoir laisser la possibilité aux élèves.
Se rendre compte aussi par eux-mêmes, effectivement, oui.
Voilà, d'accéder à l'enseignement supérieur, de se rendre compte effectivement de ce que ça donne, et surtout d'avoir plus d'accompagnement sur les différentes formations et les liens entre les différentes formations. Parce que des fois, on va pouvoir se retrouver, par exemple, à la fac, je ne sais pas, en première année de sociologie, et puis on va rater son année, on va pas s'en sortir, on va trouver que c'est compliqué ou que ça nous plaît pas forcément. Et en fait, peut-être que ce qui nous plaisait plus précisément, ça aurait été une formation de psychologie. Et à ce moment-là, à la place de juste arrêter totalement les études et faire autre chose, comme ça va être le cas de pas mal de lycéens, et pour le coup, c'est un vrai témoignage, parce que autour de moi, je vous assure que la grande majorité, les trois quarts de mes amis qui étaient en terminale avec moi et qui, cette année, on faisait l'enseignement supérieur, ont arrêté au bout de quelques semaines, quelques mois pour certains, les études. Et en fait, il n'y a eu aucun accompagnement, ou alors très très peu d'accompagnement et de suivi sur qu'est-ce qu'on peut leur proposer par la suite, comment on peut éventuellement retravailler sur leur projet de formation, leur projet d'orientation.
Alors,
et
qu'est-ce ça, qui...
le problème...
Vas-y, vas-y.
Et le problème, là, il est vraiment de... Aujourd'hui, on a choisi de créer de la sélection à la fac parce qu'on veut d'une part faire cette sélection, comme vous le dites, des meilleurs élèves. Donc, par conséquent, ceux qui ont voilà, le plus de capital culturel et une égalité des chances qui n'a rien à voir. Mais aussi parce que ça permet de favoriser les écoles privées et de favoriser voilà, que des élèves puissent... pour les meilleurs éléments, comme vous l'avez évoqué, aller plutôt dans des établissements privés, dans des instituts privés, et ce qui en fait renforce une logique, une politique de privatisation de l'enseignement, que ce soit au niveau de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur. Là, on l'a vu depuis les dernières années, et avec même les propositions récentes de l'actuel président de la République, une réelle logique de privatisation de l'enseignement, et même de manière générale, de dégradation des services publics tels qu'ils existent encore aujourd'hui.
Oui, ça, le mot privatisation de l'éducation nationale revient souvent. Hein. Par contre, dans ton entourage, tu as des amis donc, qui ont dû changer leur cursus ou rentrer dans la vie active. Ils ont quitté parce que pour eux, ça a été un échec. Alors que malheureusement, je pense que dans l'éducation nationale, on ne parle pas assez d'échecs. Et souvent, après un échec, c'est là où on rebondit. Qu'est-ce qu'ils ont fait en priorité ? Ils ont cherché du travail ou ils ont changé complètement d'orientation?
Ça dépend de beaucoup des profils. Il y a différents profils dans mes amis. Il y en a eu pas mal pour le coup qui sont redirigés plutôt vers le service civique, qui quand même pose un certain problème dans le cadre où le service civique, c'est un contrat un peu comme le contrat que j'ai moi en apprentissage, mais un contrat qui est très très précaire et qui pose des jeunes souvent sur des postes. Des postes dans lesquels, de manière générale, on aurait un vrai poste quoi, où il y aura un CDD et un CDI, et là on met un service civique qui va être payé, c'est même pas un salaire, hein, c'est une indemnité, quasiment rien, et des conditions de travail qui sont dégueulasses. Mais voilà, il y en a certains qui s'y reconnaissent quand même dans le service civique, parce que ça permet de voir différentes lumières qu'ils ne connaissaient pas forcément. Certains sont allés chercher aussi du travail directement. J'ai un ami qui fait aide à la personne et qui s'y retrouve plutôt bien, même si effectivement il se rend compte que bah voilà, les conditions de travail, c'est quand même assez compliqué, et que malgré que ce soit un métier qui te plaise, et ben c'est compliqué de travailler là-dedans, et que en fait plus que le monde professionnel, le monde dans lequel il s'est retrouvé aussi quand même particulièrement difficile. Et après, il y a des amis aussi qui eux ont plutôt essayé de se réorienter, de trouver peut-être des formations qui leur plaisaient plus. Voilà, chose qui est pas évidente. Assez souvent, moi, dans les profils de mes amis que j'ai pu voir, c'est en fait ça se fait sur un an, c'est-à-dire que va y avoir sur les premiers mois après avoir arrêté les cours, ils vont finir leur année mais sans trop aller en cours, et puis ils se réorientent plutôt à l'année d'après. Mm-hmm. Donc en fait on a quand même souvent, voilà.
C'est pas une année perdue parce qu'ils prennent le temps de chercher à nouveau leur orientation. Il y a juste une chose qu'on a oublié de dire, c'est qu'il y a les CAES, Commissions d'accès à l'enseignement supérieur, qui aident les candidats à trouver une place dans une formation du supérieur. Ça, c'est pour tous les candidats qui sont en attente ou refusés sur Parcoursup. Et il est possible donc de se mettre en lien avec ces commissions qui existent dans chaque académie de juillet à septembre. Donc, peut-être que ceci n'est pas connu non plus des élèves.
En effet, ouais, moi, je crois que je n'avais pas connaissance de cette commission. Alors, on l'a peut-être évoqué en cours, mais en fait, on n'a pas plus d'informations que ça. Puis, alors, on nous parle de différentes commissions sur l'accès. En fait, on nous parle de plein de commissions quand on est encore du coup lycée en période d'orientation, et puis en fait on comprend pas bien comment ça fonctionne, qui sert à quoi et qui nous accompagne dans quel cadre. Donc c'est pas toujours évident de se retrouver entre les différents organes de l'orientation.
Alors, le problème qui se pose aussi, c'est qu'il y a la gestion des flux aussi au niveau des jeunes qui est peut-être à revoir, car il y a certaines formations qui, justement, ferment parce que faute de demande. Comment on pourrait améliorer ça? Peut-être parce que les jeunes, justement, ne connaissent pas ces formations. Léni, peut-être, tu peux répondre?
Je crois que Léni ne peut pas répondre en ce moment. Je crois qu'il a un problème de micro. Mais
Vas-y, alors Nathan.
Bon, je vais répondre à sa place, mais oui, effectivement, je pense qu'il y a vraiment une grande inégalité sur comment les différentes formations sont présentées aux élèves. C'est-à-dire que particulièrement, en fait, je pense que cette inégalité, elle vient même bien avant. Elle vient bien avant le lycée et et la classe de terminale, c'est-à-dire que dès le collège, on a vraiment une dévalorisation de l'enseignement particulièrement professionnel et puis aussi technologique, alors qu'en fait, c'est juste que les différentes formations, elles sont adaptées à différents profils et à différentes volontés de projets de formation, d'orientation, de projets professionnels. Et aujourd'hui, c'est pas comme ça que ça nous est présenté à l'école. Moi, j'ai vraiment le sentiment, et c'est vraiment quelque chose qui est partagé par mes camarades de classe autour de moi, c'est que on nous présente beaucoup la formation générale comme la formation, enfin où on peut aller quand on a des bonnes notes, quand on se sent bien. Et en fait, on va plus nous parler des formations professionnelles comme des voies de garage et pareil pour certaines formations technologiques, ce qui est vraiment dommage. Et pour le coup, aujourd'hui, moi, après avoir fait un enseignement général, je suis en formation professionnelle et je vois vraiment ça colle pas du tout à comment on a pu m'en parler quand j'étais au collège. Et là, c'est pareil, en fait, au niveau de l'enseignement supérieur. C'est-à-dire que, voilà, on va beaucoup privilégier de pouvoir faire des grandes écoles, de pouvoir faire des classes prépa aussi. Et en fait, on va nous privilégier énormément de formations qui sont très sélectives et qui restreignent beaucoup les choix et le public qui peut y accéder. Et ça, aujourd'hui, je pense que c'est assez dommage parce qu'en fait, les élèves, ils pourraient se trouver très bien dans d'autres formations que celles vers lesquelles ils vont, mais ils vont pas vers les formations qu'ils aimeraient. parce que voilà, il y a, aussi tout le côté familial, parce que il y a tout ce que toute la pression un peu qu'on a dans l'environnement à l'école sur sur telle transformation.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette problème de mobilité aussi, dans, malheureusement, par rapport aux familles et à l'environnement auquel on est, hein? Parce que on voit que les jeunes, ils n'ont pas forcément par rapport aux formations qu'on peut proposer. Si c'est des formations qui sont éloignées de leur endroit familial, il y a ce frein-là aussi.
Mais on le voit même avec les lycées. Donc, selon les options qui sont proposées. Oui. Les jeunes vont choisir le lycée le plus proche de chez eux.
Bien sûr.
Puis quitte à ne pas prendre les options qu'ils veulent, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a un problème peut-être aussi à ce niveau-là, effectivement.
C'est pour ça que ça dépendra aussi des inégalités.
Ouais, tout à fait. Par exemple, moi, j'ai dû changer de lycée il y a 2 ans parce que les enseignants que je voulais suivre n'étaient pas disponibles dans mon lycée. Et alors, j'ai eu la chance d'être accepté dans un établissement un peu plus proche du centre-ville. Mais ça n'a pas été la chance de tout le monde. Et puis surtout, dans l'établissement où j'étais avant, qui pourtant était un très bon établissement, hein, c'est un lycée polyvalent, et je pense que c'est vraiment le type d'établissement qu'il faut aussi chercher à développer. Voilà, c'était plus centré sur des matières scientifiques. Et en fait, le problème, c'est que moi, ce que j'ai pu constater, c'est qu'on recrée des filières au sein de l'établissement. C'est-à-dire que moi, on me proposait... si je voulais prendre physique, il fallait forcément prendre avec, par exemple, maths et SVT, ou alors SI et maths. Mais je ne pouvais pas mélanger un peu comme je souhaitais le faire. Et donc pour ça, il a fallu soit changer d'établissement, soit on m'a dit, tu peux rester dans cet établissement et suivre tes deux spécialités-là, mais pour suivre telle spécialité, tu devras aller dans l'autre établissement. Mm-hmm. Donc ça veut dire changer... donc faire mes 4 heures puis du coup en terminale les 6 heures de spécialité dans un établissement qui n'était pas du tout qui était bien plus loin dans la ville, c'était pas si loin géographiquement, mais ça implique quand même de devoir changer et puis
ses habitudes, etc.
Des fois c'est juste pas faisable.
Moi, j'ai juste une question que j'ai oublié de poser. Lorsque tu as rempli ton dossier Parcoursup, est-ce qu'il y a eu des bugs informatiques ou pas, ou tout s'est bien déroulé?
Non. Pour moi, ça n'a pas été le plus traumatique pour des amis. Ça l'a été plus. Moi, j'ai eu quelques bugs au niveau de l'entrée des formations, tout ça. Mais par exemple, j'ai des amis qui, une fois qu'ils avaient été acceptés dans telle formation, soit que c'était une formation de droit, en plus, c'était quelque chose de plutôt sélectif. Et alors la mise en question, une fois qu'elle a été acceptée, elle avait sa place et tout, et puis du jour au lendemain, sa place a disparu, comme si elle était du coup plus acceptée. Et du coup, elle a pu passer l'école et contacter le rectorat, tout ça, pour qu'on lui rende sa place, entre guillemets. Parce qu'il y a eu un bug informatique à ce niveau-là, mais qui du coup ne vient pas aider sur déjà tout le stress.
Alors, je vais te couper parce qu'il faut quand même qu'on avance. Moi, j'ai eu un professeur qui me disait que le système Parcoursup n'avait pas très bien fonctionné. Et donc, il se trouve que des professeurs de langue sont obligés, en fin de compte, de renoter, de donner les notes à nouveau, de renoter leurs remarques sur le logiciel qui n'a pas pris en compte le premier enregistrement. Donc, ça s'énerve un petit peu de ce côté-là. Alors, moi, je voulais parler vite fait, c'est de notre système scolaire. L'éducation nationale, on peut le dire, n'écoute pas les revendications des jeunes malgré les manifestations, les grèves, les pétitions. Avez-vous l'impression d'être un petit peu les oubliés du système scolaire? J'ai l'impression que tu vas me répondre oui. Et qu'attendez-vous tous comme changement dans la mise en place de liaisons entre lycée, peut-être fac, université, avec la gestion des diplômes, la façon de gérer peut-être les cours pour les rendre plus attractifs pour vous?
On commence à deviner un peu mes réponses, mais effectivement, j'appuierais sur le fait qu'on n'est pas les seuls oubliés du système scolaire. Et c'est bien dommage parce qu'on en est quand même les premiers concernés, mais aussi les professeurs et tous les personnels de l'éducation nationale.
Oui.
Parce que aujourd'hui, on n'est pas écouté ni les professeurs, ni personne en fait par le ministère. On a eu des mobilisations début janvier de toute l'éducation nationale qui était plutôt historique en fait sur les systémisations, sur la mobilisation des professeurs et si les élèves étaient très présents. Et pourtant, on n'a aucune écoute de la part du ministère et de la part en fait des patrons. Hein, quand on parle des profs, c'est directement leur patron et le patron est tout ça. Et pour nous, premiers usagers de ce service public, on n'est pas écouté non plus. Et on fait face à du mépris et à de la condescendance de la part de ce ministère qui n'a comme seule réponse, de manière générale, aux lycéens, la répression quand ils viennent se mobiliser par des mobilisations qui passent par eux.
Alors, je voudrais terminer un petit peu là-dessus. Hein, selon la troisième édition du baromètre L'étudiant BVA de confiance dans l'avenir des 15-20 ans, publié le 9 novembre 2021, les jeunes sont un peu plus inquiets que l'an passé quant à leur avenir professionnel. Ils attendent des entreprises de la sécurité matérielle et du bien-être au travail. Moi, je me pose la question, que manquent-ils pour motiver les jeunes à être plus autonomes, plus responsables de leur avenir? Peut-être simplement de leur faire confiance, hein, tout simplement, et éveiller chez eux l'envie d'engagement social pour changer les choses. D'ailleurs, de plus en plus de jeunes se posent des questions sur l'égalité entre les sexes, la liberté de ses opinions, l'égalité des chances, l'empathie et la bienveillance en pôle position. Et par la suite arrivent la sécurité, la solidarité, la préservation de l'environnement, le travail. Est-ce que tu es d'accord avec ces valeurs clés et est-ce que tu as envie peut-être d'en rajouter d'autres, Nathan?
Oui. Alors, vous avez évoqué beaucoup de choses. Mais
ça va, tu as la liste devant les yeux, je te l'avais envoyée.
je vois ça. Non, mais effectivement, les choses que vous avez évoquées, donc sur la question, on dit plutôt l'égalité entre les genres, nous, mais sur la liberté des opinions, l'égalité des chances, l'empathie, la violence, tout ça, c'est un peu déjà des valeurs pour la plupart qu'on porte au niveau du syndicat. Donc c'est des valeurs effectivement que on partage dans un premier lieu et qu'on souhaite, je pense, à l'école pouvoir développer et sur lesquelles on souhaite pouvoir discuter entre les élèves. Et je pense c'est aussi un peu l'occasion de rappeler qu'à l'école, on a quand même très peu de formation finalement, de formation un peu politique, de formation sur l'esprit critique, sur...
géopolitique.
Ouais, tout à fait. Géopolitique.
Oui, alors que c'est des choses qui sont très intéressantes pour vous en fin de compte.
Mais même plus que très intéressantes, c'est des choses qui sont absolument indispensables.
Tout à fait.
Et qui devraient être en fait des choses basiques dans l'enseignement et dans la formation des futurs citoyens, citoyennes, tels que c'est le cas aujourd'hui.
Et si vous voulez, même, on a ce qu'on appelle des heures d'EMC, éducation morale et civique, dans lesquelles on a globalement un cours très
rapide. Léni, on t'entend très très mal. Est-ce que tu peux te rapprocher? Voilà, vas-y.
C'est... Est-ce que c'est mieux?
Ah, mais parfait, vas-y.
Donc je disais, du coup, oui, au lycée, on a ce qu'on appelle des heures d'EMC, éducation morale et civique.
Ça va pas, attends, Léni, il y a un écho. Est-ce que tu peux... Ouais, un écho, est-ce que tu peux recommencer? T'es trop près du micro, peut-être.
C'est mieux, là.
Bon, on va essayer comme ça, c'est bon, Luc? Il me fait signe que oui, tu peux y aller, Léni.
Ok, donc je disais, du coup, oui, on a des heures d'EMC, éducation morale et civique, dans lesquelles les professeurs, en gros, essayent de nous donner plusieurs sujets auxquels on doit s'intéresser, etc., mais rien de très concret, si vous voulez. Et au-delà de ça, en fait, ce qu'on demanderait pour que les jeunes puissent s'intéresser, connaître leurs droits, etc., c'est une reconnaissance des organisations lycéennes, notamment syndicales. Parce que, si vous voulez, en fait, les seules fois où les syndicats lycéens sont écoutés, c'est quand il y a des mobilisations sociales dans la rue. Par exemple, après la grève du 13 janvier, on avait été reçus par le DGESCO. En gros, globalement, pendant une heure, on a fait part de nos revendications, puis ils nous ont dit, bon, c'est très bien, on fait remonter ça, et puis on n'a pas eu de suite.
Donc, oui, on écoute plus facilement. Effectivement, on écoute plus facilement les syndicats des étudiants que les lycéens. On vous trouve peut-être trop jeune.
On n'est pas reconnu, tout simplement.
Voilà, tout à fait. Alors, pour vous, quelles sont les actions à mener pour se faire entendre? Je pense que vous avez fait un débat sur la lutte des classes. Si je me trompe, qu'en est-il exactement? Et ça sera peut-être ma dernière question. Ah, il y a encore 7 minutes? Oui. Oh, c'est bon, on a encore le temps. Bon, alors, allons-y. Pour vous, quelles sont les actions à mener, donc? Il y a quelqu'un qui m'a entendu, non? Nathan,
vas-y. Que je peux répondre, effectivement. Quelles sont les actions à mener? Et puis, vous avez évoqué la lutte des classes. Nous, on a eu une formation il n'y a pas longtemps, effectivement, sur la lutte des classes. C'est pour nous quelque chose qui est assez primordial dans la formation des lycéens et des lycéennes, en tout cas dans le cadre de notre action syndicale. Et aujourd'hui, en fait, on pense qu'il y a vraiment une mobilisation à avoir dans la jeunesse et chez les lycéens et les lycéennes particulièrement, parce que pour défendre notre service public d'éducation, et en fait particulièrement dans ce cadre-là aujourd'hui des élections présidentielles où on voit un florilège de différents candidats qui viennent nous présenter leur programme, tous les uns les plus destructeurs du service public que les autres. Et nous, je pense, aujourd'hui, on est vraiment attachés, lycéens, lycéennes, et puis même les étudiants d'enseignement supérieur, à ce service public de l'éducation nationale, à ce service public de l'enseignement. Et on est attachés, voilà, à cette égalité qu'on souhaitait pouvoir retrouver, de cette égalité d'accès, cette égalité de... Mais en fait, cette égalité qu'on perd depuis de nombreuses années, que ce soit au niveau de l'accès, en fait, parce que l'école, aujourd'hui, n'est pas tout à fait gratuite. Que ce soit au niveau de la qualité de l'enseignement aussi qui nous est donné, et que ce soit au niveau de la qualité de nos conditions d'études, de nos conditions même de vie, en fait, dans le cadre de la société actuelle. Après, nous, on a vraiment, dans le cadre du syndicat, une analyse assez globale sur le système et sur la manière dont on peut améliorer le système éducatif. Nous, ce qu'on pense globalement, c'est que pour améliorer le système éducatif tel qu'on l'entend, donc avec plus d'égalité, avec plus de liberté, avec un enseignement de meilleure qualité et plus accessible, ça passera pas dans le cadre du système capitaliste dans lequel on vit aujourd'hui. Et on pense qu'il faut pouvoir s'en affranchir et amener quelque chose d'autre pour améliorer le système éducatif au mieux, et qu'aujourd'hui... En fait, on est tellement allé loin dans la destruction du service public que c'est pas à coup de réforme qu'on ramènera les choses, mais qu'aujourd'hui, finalement, elles ont trop soulevé, elles ont trop de place et trop d'impact sur le service public et sur le fonctionnement de la société pour qu'on puisse faire juste une marche arrière et avec des réformes essayer d'améliorer les choses.
Mais est-ce que vous avez déjà fait un topo sur vos revendications pour les envoyer aux médias ou tout simplement là aux candidats à la présidence
Oui, d'autant que les candidats veulent faire un... Voilà. Dans leur proposition, il y a le droit de vote à 16 ans.
Ouais, alors oui, pour certains, effectivement, il y a cette proposition qui revient. Nous, aujourd'hui, ces propositions, elles existent, hein, elles sont même sur le papier, puisqu'on les édite lors de nos congrès nationaux, qui sont des moments très importants pour le syndicat, et on les écrit en fait au sein d'un document qu'on va appeler un texte d'orientation qui définit un peu l'orientation politique de notre syndicat. Aujourd'hui, on n'a pas eu vraiment cette démarche d'aller vers des candidats à l'élection présidentielle.
Mais c'est dommage parce que c'était peut-être une façon de vous faire connaître, de faire connaître le mouvement.
Alors, effectivement, en fait, il y a déjà, je pense, un certain nombre de partis avec lesquels on a déjà un échange et un travail très régulier, donc beaucoup avec lesquels on connaît très bien. Et je pense que les partis vers lesquels on n'a pas d'échange et vers qui on ne
sait pas... Tu peux nous donner les noms parce que on ne sait pas, vous êtes en lien avec quel parti ?
Nous, on travaille dans un certain nombre de cadres qu'on appelle interorganisationnels, donc là, dans le cas des élections présidentielles, c'est avec qui on a l'habitude de travailler. Ça va être... je n'ai pas devant moi, donc je peux vous les citer. Je vois la France Insoumise, je vois le Parti Communiste,
le Parti
Anticapitaliste, le NPA, Lutte Ouvrière.
Et mais c'est également dommage de ne pas aller vers les autres aussi.
Mais parce que je pense que, très honnêtement, si on ne va pas vers les autres, c'est parce que ce sera aussi... En fait, les autres équipes, ça va être à droite et extrême droite, et globalement, c'est pas des gens avec qui on va travailler, parce que c'est eux-mêmes qui détruisent notre service public d'éducation nationale. Donc, c'est pas eux qui vont chercher à le réparer, en fait. On a aussi cette...
Non, mais malheureusement, c'est eux qui sont au pouvoir. Alors, des fois, pour se faire entendre, faut justement peut-être y aller, quoi. Et puis soumettre vos revendications.
Et puis les courriers.
Que... Tout à fait, mais si c'est ceux qui sont au pouvoir, effectivement, c'est ceux qui sont aussi présents dans les instances. Et du coup,
oui, bien sûr, bien sûr.
C'est qu'on passe par les instances, et ça, on le sait, on est présent dans les CVL, dans les CAVL, dans les CNVL, dans les CSE, dans toutes les différentes fausses instances de démocratie qui peuvent exister, et qui sont là en réalité que pour faire de la consultation, et encore quand ils veulent bien nous écouter. Mais en réalité, nous, ce qu'on pense, c'est qu'aujourd'hui, la manière dont on a de pouvoir changer la société, ça va pas être en passant par ses enfants, parce qu'on a vu très vite leurs limites. Et ça, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qu'on voit depuis des dizaines d'années au niveau de l'engagement lycéen. Mais on pense que aujourd'hui, les mobilisations qui ont lieu devant les lycées, que ce soit par les blocages, que ce soit par les manifestations, par les rassemblements, c'est des mobilisations qui ont réellement un impact et qui permettent aux lycéens et aux lycéennes de se rendre compte que c'est en passant par la mobilisation aussi qu'on peut faire changer nos conditions de vie, nos conditions d'études et améliorer le système éducatif vers lequel on souhaiterait pencher. Et ça, pour le coup, ça a d'autant plus de sens pour nous qu'on travaille de manière très régulière dans des cadres interprofessionnels, dans des cadres intersyndicaux qui regroupent la jeunesse, tous les secteurs d'activité.
Moi, je suppose que vous... Je suppose que vous travaillez aussi avec certainement des parents, des associations de parents d'élèves. Par contre, vous faites comment pour vous faire connaître au niveau des lycées ? Parce que moi, le mouvement national des lycéens, c'est en faisant des recherches, mais a priori, il n'y a pas, je ne sais pas, les étudiants, nous, dans l'Oise, on n'en a pas trouvé qui représentait ce mouvement.
Oui, bah alors justement, on a, je pense, un certain problème à ce niveau-là, c'est que si on pouvait avoir aussi plus de on est aujourd'hui pour le coup le MNL le premier syndicat lycéen en France, mais on représente pour autant pas autant de lycéens qu'on souhaite représenter. Et la réponse à ça, c'est aussi que aujourd'hui le ministère il fait tout pour nous empêcher de pouvoir aussi développer et permettre aux lycéens, voilà, au travers du MNL, du syndicat lycéen, tout ce qu'on propose en fait, donc que ce soit de la formation politique, que ce soit de participer à des événements, de rencontrer des élèves à travers toute la France et de se mobiliser pour les valeurs qui sont les leurs. Et aujourd'hui, le ministère, la seule réponse à ça, c'est d'une part, on ne reconnaît pas le syndicalisme lycéen ni étudiant, donc que ce soit le ministère de l'Éducation nationale ou le ministère de l'Enseignement supérieur, ils ne reconnaissent pas notre droit au syndicalisme, alors que pourtant, en tant que lycéen et en tant que jeune travailleur intellectuel et travailleur en formation, on a tout à fait ce droit de défendre nos intérêts.
Et c'est vrai, en fin de compte, on a la possibilité que de vous voir sur Internet, mais dans les médias, on n'a jamais la possibilité de vous entendre.
Il y a peut-être un statut à revoir.
Ah oui, Jackie a peut-être raison. Il y a peut-être un statut à revoir. Et là, il y a Luc qui méchamment me regarde en me disant « Non, l'émission est terminée. Donc, je laisse la parole à Gérard. »
Notre émission se termine. Je remercie chaleureusement Nathan et Lenny d'avoir participé à cette émission, qui sera diffusée pendant le mois d'avril le vendredi 8 à 19h, le lundi 11 à 16h30, le samedi 23 à 17h et le mercredi 27 à 2h du matin. Le thème du mois prochain sera la parentalité. Chers auditeurs, si l'éducation des enfants et l'avenir des jeunes vous intéressent, n'hésitez pas à venir nous rejoindre et venez donner votre opinion à l'antenne. Contactez-nous par courriel sur le site de RVM à www.radio-6-valois-6-mulsien.fr. Merci Luc à la technique. Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Ils sont marrants cette année. C'est difficile de deviner dès la rentrée. Lequel se fera arrêter pour les scouts qui leur a piqué, lequel sera incarcéré pour avoir trop dit. Et moi en bon prof, je suis préparé. Un peu de maths et de français, du kickboxing, du karaté. Tant pis pour la géographie, ceux qui connaissent de l'Italie, c'est juste vaguement les spaghettis et Rocco si Freddy. Au programme de cette année, en français faudrait arriver à lire tout un livre en entier. Mais même Darman et Marc Lévy, y'a plus de 100 mots de vocabulaire. On sera toujours à lire la préface même après l'hiver. Et mon voisin me voyant me dira bande de feignants, alors vous êtes déjà rentrés, vous savez pas ce que c'est de bosser avec vos semaines.